Bonjour, bonjour en direct de Bruxelles, du siège de l'OTAN. Je m'appelle Rosa Balfour, je suis directrice de Carnegie Europe et je suis absolument ravie d'animer cette discussion entre le secrétaire général Jens Stoltenberg et le secrétaire d'État américain Antony Blinken sur le renforcement du lien transatlantique. Nous avons l'opportunité de cette rencontre à l'occasion de la première visite du secrétaire d'État Blinken auprès de l'OTAN lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Et après cette période d'incertitude s'agissant du lien transatlantique, il est bon de parler de l'avenir. Le secrétaire général guide actuellement l'OTAN vers un nouveau concept stratégique qui sera débattu au sommet plus tard cette année pour préparer l'OTAN à son avenir. Et la nouvelle administration américaine souligne que l'élément central de son travail est de travailler avec les alliés et de réparer le lien transatlantique. Donc le moment est de traduire ces paroles en actes et voici une première occasion de le faire. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais vous demander de nous livrer quelques remarques liminaires pour le plan OTAN 2030. Merci beaucoup, Rosa. Monsieur le secrétaire Blinken, cher Tony, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour de nombreuses raisons. Votre expérience, le bagage qui est le vôtre, votre connaissance approfondie de l'Alliance fait de vous un secrétaire d'État qui est plus que le bienvenu ici en Namur et nous serons ravis de siéger à vos côtés aujourd'hui, demain et de débattre de toute une série de questions qui sont à l'ordre du jour de l'OTAN. Je crois que nous avons maintenant une opportunité sans précédent de renforcer notre lien transatlantique, d'ouvrir et d'écrire un nouveau chapitre dans les relations entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Nous avons une nouvelle administration en place à Washington. Le président Biden a fait passer le message qu'il est nécessaire de reconstruire les alliances, de renforcer le lien entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Nous allons tenir un sommet un peu plus tard dans l'année, ici à l'OTAN. Et nous avons bien sûr l'initiative OTAN 2030, qui est une initiative dont le but et de préparer l'OTAN à son avenir, de faire en sorte que l'OTAN poursuive son adaptation. L'année dernière, nous avons mis en œuvre la plus grande et la plus profonde adaptation de l'OTAN en une génération depuis la fin de la guerre froide, mais nous devons poursuivre sur cette voie. Et c'est exactement, c'est précisément ce que fait le projet OTAN 2030, parce que nous sommes confrontés à des défis tels que l'attitude de plus en plus affirmée de la Russie, des attaques contre l'OTAN, bien sûr, mais aussi contre les alliés individuels dans le cyberespace. Nous avons les menaces constantes du terrorisme, les cybermenaces au sens général du terme, mais aussi la montée en puissance de la Chine et ses conséquences sécuritaires, la conséquence de la prolifération de l'arme nucléaire et bien sûr les conséquences importantes du changement climatique. Et aucun allié, aucun continent ne peut faire seul pour aborder, relever ces défis. Nous avons besoin que l'Europe et l'Amérique du Nord soient unies. Et l'OTAN 2030, cette initiative, c'est exactement cela. C'est renforcer notre unité, c'est utiliser l'OTAN comme plateforme unique, la plateforme unique en son genre que l'OTAN est, qui rassemble au quotidien l'Europe et l'Amérique du Nord et qui débat de sujets importants pour notre sécurité commune. Et nous savons que notre unité vient de la promesse que nous nous sommes faites de nous défendre les uns les autres. Donc nous devons nous concentrer sur le renforcement de la dissuasion et de la défense en utilisant plus de ressources au titre du financement en commun pour la dissuasion et la défense. C'est une autre manière de renforcer notre unité, de démontrer que nous faisons plus ensemble. Alors, l'OTAN 2030, c'est également élargir l'agenda de sécurité, avoir plus de résilience, avoir des infrastructures solides, des structures de télécommunications énergétiques, des réseaux 5G, de la technologie qui nous permettent d'être à la pointe de la technique, d'avoir la main, d'aborder les questions de changement climatique, autant de questions qui sont essentielles pour notre sécurité et nous pensons que l'OTAN doit être en première ligne pour aborder toutes ces questions. L'OTAN 2030 s'est également noué de nouveaux partenariats, renforcé des partenariats existants, avec des partenariats bien sûr dans notre voisinage, mais aussi plus loin, ailleurs, parce que nous pensons que nous avons la possibilité prévoir, d'aider nos partenaires à prévoir. Nous pouvons aider à stabiliser notre voisinage aussi et nous en serons ainsi plus en sécurité. Mais nous pouvons aussi, à ce titre, travailler avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, plus loin dans l'Asie-Pacifique, se fonder sur des démocraties solides ailleurs, parce que c'est aussi une manière de préserver l'ordre mondial et ses règles. Nous pensons que tout cela découle évidemment de la montée en puissance de la Chine. Et beaucoup des questions qui sont abordées dans l'initiative OTAN 2030 sont pertinentes justement pour aborder la montée en puissance de la Chine, la résilience technologique, nouer des partenariats avec des pays qui partagent nos valeurs. Donc voilà autant de questions qui participent de l'initiative OTAN 2030 qui sera débattue aujourd'hui à l'OTAN. J'espère aussi que lorsque les leaders se réuniront plus tard dans l'année, ils accepteront l'idée que le moment est peut-être venu de mettre à jour le concept stratégique de notre alliance et que donc nous pourrions peut-être rédiger un nouveau concept stratégique, non pas cette année, mais en 2022. Donc l'initiative OTAN 2030, c'est un outil, une plateforme qui démontre notre engagement à l'unité transatlantique, à un travail de concert entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce n'est pas uniquement quelque chose que nous montrons écrit noir sur blanc, c'est quelque chose que nous avons l'intention de mettre en pratique également. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, pourrais-je vous demander de donner la perspective américaine sur le lien transatlantique et sur le concept de la diplomatie des partenariats? Merci de nous rassembler aujourd'hui et de nous permettre de tenir ce dialogue. Monsieur le secrétaire général, cher Jens, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je crois que vous avez couvert très largement l'agenda extrêmement important que nous allons aborder cette semaine, mais aussi dans les mois et les années à venir. Et d'entrée de jeu, je dirais ceci. Il est souvent facile de tenir pour acquis les bonnes choses, les bonnes réalisations. Et je crois que nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter là et de dire « l'OTAN est un acquis ». Point à la ligne. Nous avons tendance à oublier que cette alliance est une institution véritablement remarquable. C'est une initiative remarquable qui rassemble aujourd'hui 30 pays, près d'un milliard de gens, et ce sur une base volontaire. Nous nous sommes rassemblés autour de valeurs que nous partageons, la démocratie, la liberté, l'ouverture, et nous sommes là pour défendre l'ordre mondial et ses règles afin de permettre aux pays d'aller de l'avant dans la paix. Et ce qui est également remarquable avec l'OTAN, c'est qu'en fait l'OTAN n'est pas vraiment définie par ce à quoi nous opposons, mais par les valeurs que nous incarnons, que nous défendons, tout ce pourquoi nous sommes et ce que nous avons l'intention résolument de défendre si cela est attaqué ou mis au défi. Vous l'avez dit, Jens, nous avons un agenda chargé, mais cet agenda, il est là pour faire en sorte que l'Alliance soit aussi efficace qu'elle se doit de l'être dans les 75 prochaines années. Cela veut dire s'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui, non pas tel qu'il était en 2010 ou même avant. Donc l'initiative OTAN 2030 est la bonne chose à faire. Et la raison pour laquelle je suis ici présent et la raison pour laquelle le président Biden nous a envoyé ici aujourd'hui, c'est pour réaffirmer fermement l'engagement des États-Unis pour cette alliance et pour nos partenariats. Nous voulons insuffler un sang nouveau à cette alliance, au partenariat, à commencer bien sûr par le lien transatlantique au sein de l'OTAN. Cela semble peut-être fondamental et peut-être un petit peu ténu de le dire, mais lorsque nous regardons l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés, nous, nos pays, qui vont avoir une incidence sur la vie de nos citoyens, eh bien, aucun de ces défis ne peut être géré par un pays faisant cavalier seul, même si ce pays, ce sont les États-Unis avec les vastes ressources que nous avons. Nous avons un intérêt profond, que ce soit pour aborder les nouveaux défis cyberattaques, montée en puissance de pays autocratiques et les problèmes que cela génère, nous avons un intérêt profond à agir ensemble, collectivement, sur base de notre sécurité collective. Et c'est cela qu'incarne l'Alliance. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que l'OTAN soit dans le moment présent et puisse relever les défis du monde actuel. C'est cela l'agenda de l'OTAN 2030 et nous essaierons de le faire avancer, bien sûr, avec le secrétaire général et tous les partenaires. Monsieur le secrétaire général, nous avons reçu beaucoup de questions dans le feed Twitter, mais avant d'aborder les questions qui traitent des défis extérieurs, j'aimerais que vous fassiez un petit travail d'introspection. Il y a eu des tiraillements au sein de l'Alliance, des préoccupations quant à l'avenir de l'OTAN. Alors, comment l'OTAN peut-elle trouver un sang nouveau à ce lien transatlantique? Comment peut-elle verrouiller ce lien transatlantique au vu des changements politiques que l'Alliance elle-même vit par le biais de ces pays? Et force est de constater que ces dernières années, il y a eu des dissensions au sein de notre Alliance. On a vu naître des divergences de vues, certes, mais je crois que ces divergences de vues, ces débats parfois difficiles, ont démontré l'importance d'avoir des institutions fortes. Le but d'avoir des institutions multilatérales fortes telles que l'OTAN est qu'en fait, elles résistent aux tendances changeantes. Nous sommes 30 alliés avec des histoires différentes, des géographies différentes, des partis politiques différents au pouvoir dans ces 30 pays. Mais la réussite de l'OTAN, c'est qu'en dépit de ces différences, nous avons toujours été en mesure de transcender tout cela et de nous défendre mutuellement. Donc tant que l'OTAN pourra s'adapter à ce genre de changement, eh bien, nous pourrons résister aux vents les plus forts parce que c'est dans l'intérêt de sécurité des alliés européens, mais aussi des alliés que sont les États-Unis et le Canada, d'être ensemble autour de la table de l'Alliance. Il est important pour l'Europe d'avoir une OTAN forte, mais aussi pour les États-Unis. Et si l'on est préoccupé par la montée en puissance de la Chine, eh bien, ensemble, les alliés de l'OTAN représentent 50% du PIB mondial, 50% de la puissance de feu militaire du monde. Donc, nous pouvons ensemble innover en matière de nouvelles technologies, relever les défis, notamment de la montée en puissance de la Chine. Donc, pour les États-Unis, avoir l'OTAN, être au sein de l'OTAN, c'est avoir un atout qu'aucune autre grande puissance n'a à sa disposition. 29 amis, 29 alliés. C'est unique. On l'a vu maintenant, on l'a vu aussi il y a deux décennies en Afghanistan. Les alliés européens, les États-Unis, le Canada y ont travaillé ensemble, main dans la main, et cela dure depuis deux décennies. Donc, ensemble, nous pouvons défendre nos responsabilités essentielles, la défense collective de nos alliés, et je suis très optimiste que, comme nous l'avons fait par le passé, nous pourrons le faire également à l'avenir. Monsieur le secrétaire d'État, je me tourne vers vous. La nouvelle administration américaine insiste sur la défense des droits de l'homme, a été très critique des pays qui ne respectent pas ces règles internationales des droits humains. Mais certains de ces États critiqués montrent du doigt nos démocraties, la vôtre, la nôtre, parce que là aussi, il y a des manquements aux droits de l'homme. Alors, certains disent il faut d'abord s'occuper de notre propre maison, d'autres disent il faut tout faire en même temps. Qu'en pensez-vous? Certes, ces dernières années, nous avons vécu ce que j'appellerais une récession démocratique, un recul démocratique. Nous avons vu des pays faire marche arrière sur certains des éléments de base de la démocratie. Freedom House, par exemple, est un groupe qui suit la manière dont il y a eu un recul net de la démocratie dans de nombreux pays. Et c'est un fait. Mais dans le même temps, simultanément, nous voyons la montée en puissance des autocraties qui présentent un défi majeur aux démocraties et qui disent « nous pouvons faire mieux que les démocraties pour nos peuples ». Donc le défi que nous avons, c'est de démontrer tout juste le contraire et de démontrer, de prouver que les démocraties mettent bien à disposition du citoyen ce dont il a besoin. Alors évidemment, les États-Unis aussi n'ont pas été épargnés par des défis démocratiques ces dernières années, ces derniers mois même. Mais à mes yeux, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, je le verrai comme un verre à moitié plein et non un verre à moitié vide. Ce que nous voyons de ce défi aux États-Unis, et c'est un défi que nous avons déjà vécu dans notre histoire, c'est que chaque fois que ce défi s'est présenté sur notre route, nous sommes revenus plus forts, plus unis, plus résilients. Et la raison à cela est que lorsque nous sommes confrontés à un défi, y compris à l'interne, y compris des dissensions internes, eh bien, nous les mettons à plat, de manière transparente, aux yeux du monde. Nous n'essayons pas de bailler cela sous le tapis, nous n'essayons pas de prétendre que cela n'existe pas. Et comme je l'ai dit précédemment, ce processus qui est d'affronter nos propres lacunes, peut être certes un processus douloureux, difficile, pas très agréable, mais aujourd'hui, il me semble que nous sommes plus forts parce que nous avons affronté ce défi. Et aujourd'hui, le président Biden parle de l'importance non seulement de l'exemple de notre puissance, mais aussi de la puissance d'être exemplaire. J'espère que nous pourrons démontrer que nous sommes exemplaires. Après avoir vécu nos propres défis, nous nous reconstruisons plus fort et nous espérons que ça pourra servir d'exemple à d'autres. Mais dans le même temps, nous avons vraiment un enjeu qui est de renforcer la santé des démocraties aux quatre coins du monde, parce que tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, tout ce qui touche nos citoyens, il ne faut pas oublier que nos partenaires de choix, ce sont d'autres démocraties dont nous avons à cœur le succès, dont nous avons à cœur la réussite. Alors, effectivement, les respects des droits humains, la prévention des conflits sont autant de points sur lesquels nous pouvons avancer et progresser pour transcender les conflits et les divisions. Et la dernière chose que je mentionnerai à ce titre, c'est que je crois que promouvoir la démocratie, mauvaise presse ces dernières décennies, parce que on comprend cela comme étant faire usage de la force pour défendre la démocratie, ce n'est pas ce que nous incarnons. Ce que nous incarnons, c'est la puissance de l'exemplarité qui peut être la nôtre. Et lorsque nous voyons un pays qui va dans le mauvais sens, essayer d'inverser leur action ou éviter tout ce qui viendrait miner les fondements même de la démocratie. Et si nous sommes efficaces chez nous, si nous mettons de l'ordre dans notre maison, je pense que nous serons efficaces à l'extérieur également.
Une question de Robert Libito, qui est à Europea, enfin d'un journal en Roumanie. Comment est-ce que l'OTAN va continuer à affronter le défi que représente la Russie et la Chine qui monte en puissance? Je vais commencer par vous, monsieur le secrétaire général. Je vous demanderai d'être bref. J'ai en partie déjà répondu. Je vous ai parlé de l'importance de l'adaptation, du renforcement des capacités militaires, de la résilience et du traitement de la question des cyber, par exemple. Le plus important, c'est que tant que nous sommes ensemble, nous pouvons gérer cette montée en puissance de la Chine et cette Russie plus agressive. Je suis tout à fait d'accord et je pense que nous devons être en mesure d'agir et d'être clairs vis-à-vis de la Russie notamment. Nous travaillerons avec la Russie lorsque cela nous permet d'avancer, de respecter nos intérêts. Je pense à l'extension de l'accord New Start. Par contre, nous serons fermes, nous nous opposerons fermement vis-à-vis d'actions qui tentent de saper notre alliance. Et cette approche, je pense, est la même que celle qui est adoptée par l'OTAN. Nous devons, je pense aussi, veiller à ce que l'OTAN se concentre aussi sur les défis que représente la Chine vis-à-vis de cet ordre mondial et de ses règles. Ça fait partie de cette vision de l'OTAN à horizon 2030. Une question sur la Turquie, Turquie qui est membre de l'OTAN, Turquie qui a une relation spéciale aussi avec la Russie, une relation qui semble émerger aussi avec la Chine. Donc, qu'en est-il de ce comportement et de l'OTAN ? Il y a des différences, des préoccupations, des questions qui se posent. Je pense notamment à la décision de la part de la Turquie d'acheter les S-400 russes. Il y a des différences et des désaccords sur la situation en Méditerranée orientale et j'ai exprimé mes préoccupations à Ankara auprès des dirigeants turcs. J'ai parlé aussi des conséquences de cette décision d'acheter les S-400. Dans un même temps, je suis tout à fait convaincue que l'OTAN doit être une plateforme qui permette aux alliés de se retrouver autour d'une table lorsqu'il y a des différends pour en parler, pour en discuter, pour trouver des solutions. Et c'est exactement ce que nous tentons de faire. Nous avons pu mettre en place un mécanisme de déconfliction entre la Grèce et la Turquie ici à l'OTAN pour éviter des incidents, des accidents en Méditerranée orientale. Nous nous sommes mis d'accord sur différents plans de défense qui sont importants pour notre alliance et nous voyons aussi que la présence de l'OTAN en mer Égée est importante. Vous avez la Turquie, la Grèce, l'UE qui travaillent ensemble par le biais, encore une fois, de l'OTAN. Je pense donc que ce que nous devons faire, c'est oui, accepter qu'il y a des préoccupations, des différences, mais que nous devons utiliser l'OTAN comme un outil pour trouver des solutions et réduire les tensions. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai le même point de vue. Ce n'est pas un secret. Nous avons des points de vue différents avec la Turquie, notamment sur les S-400, des actions prises, notamment dans la Méditerranée orientale. Ce n'est pas non plus un secret que la Turquie est un allié de longue date, un allié fortement engagé. Et il en va tout à fait de notre intérêt que la Turquie reste ancrée dans l'OTAN. Ça en va des intérêts turcs également. Et l'OTAN a récemment encore prouvé toute son efficacité dans la gestion de certains de ses désaccords, et tout particulièrement dans la Méditerranée orientale. L'OTAN a pu mettre en place un mécanisme de désescalade, a pu trouver de nouvelles voies, de nouvelles solutions. Nous devons continuer dans cette voie. Écoutez, je dois conclure la discussion ici. J'ai eu des questions sur le Grand Nord, sur la stratégie sur l'Indo-Pacifique, mais la question inévitable, je pense, porte sur l'Afghanistan. Nous avons ici une question de quelqu'un basé en Afghanistan. Qu'en est-il de la confiance accordée aux talibans, notamment après le retrait des troupes? Quel est le risque d'une éventuelle coopération entre talibans et d'autres groupes terroristes? Qu'en pensez-vous? Avant toute chose, je dirais que les alliés de l'OTAN saluent et appuient les efforts américains, pilotés d'ailleurs aussi par Tony, visant à redynamiser les pourparlers de paix. En effet, une solution politique négociée, c'est la seule solution viable, durable pour la paix à long terme en Afghanistan et c'est la seule façon d'éviter que l'Afghanistan ne redevienne un refuge pour le terrorisme international. Donc nous saluons ces efforts et nous saluons toute l'énergie dont ont fait preuve les États-Unis dans le cadre de ces pourparlers. Deuxième chose, nous essayons de mettre en place une étroite coopération et des consultations importantes sur la question. Plus de la moitié des troupes en Afghanistan ne sont pas américaines. Il y a là des soldats du Canada, d'alliés européens, de pays partenaires. Ils y sont depuis de nombreuses années. Certains sont arrivés, d'autres sont revenus. Mais en tout cas, différents alliés, différents partenaires ont participé. Nous devons donc agir ensemble. Et nous discuterons avec Tony de l'importance de la coordination entre alliés. Et c'est exactement la raison pour laquelle je suis là. C'est une des raisons de ma présence ici aujourd'hui. Je veux veiller à ce que, alors que nous travaillons sur notre politique afghane, nous maintenons cette pleine coordination et consultation avec nos alliés et nos partenaires. J'aurai la possibilité de partager certaines réflexions de notre président sur la question, mais je saisis aussi cette opportunité, c'est ce que le président Biden m'a demandé de faire, pour écouter, consulter nos alliés. C'est vrai que 50% des troupes présentes en Afghanistan ne sont pas américaines. Nous nous sommes engagés de venir ensemble, de nous adapter ensemble et de sortir ensemble lorsque l'heure sera venue. Cela reste une condition. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés en Afghanistan? Eh bien, c'est parce qu'il y avait cette menace terroriste qui émergeait d'Afghanistan. Nous n'oublierons jamais que l'article 5 n'a été invoqué qu'une fois par cette alliance et c'était afin de défendre les États-Unis après cette attaque le 11 septembre. Et comme Jens l'a dit, nous sommes déterminés à ce que l'Afghanistan ne redevienne pas un refuge pour le terrorisme international. Donc, quoi que nous fassions, nous souhaitons pouvoir mener à bien cette mission. En tout cas, les prochains jours sont une véritable opportunité. La réunion de ce matin est une opportunité pour parler de ces questions ensemble, en tant qu'alliés avec nos partenaires et pour avancer ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions de notre public. Je dois m'excuser car nous n'avons pas pu poser toutes les questions qui nous sont parvenues par le fil Twitter, mais merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice. Je vous souhaite bon courage pour le travail qui vous attend au cours des prochains jours et je me réjouis de pouvoir continuer à observer les progrès qui seront effectués dans le cadre de cette relation transatlantique. Merci.
Okay.